Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit...
T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Ici, soyez prévenus, on spoil copieusement, mais c'est pour mieux analyser en détail les films dont on parle. Donc, si vous voulez éviter de vous faire divulgâcher, bien allez d'abord voir le film et revenez nous écouter après. À mes côtés cette semaine, une équipe dans une configuration inédite. J'ai le plaisir de retrouver Marie.
Salut.
Julien.
Salut.
Pierrick.
Bonjour.
Et Eric.
Salut.
C'est la première fois qu'on se retrouve tous les quatre comme ça. Très bien. Si les chroniqueurs changent d'une émission à l'autre, lui, il est là pour chaque épisode de Sale Temps, tel un phare dans la tempête. Dans la tempête, vous l'avez, Sale Temps. Absolument indéboulonnable. Bonjour Alain.
Bonjour à tous.
Toujours très suave. Hein,
quelle belle voix.
Non mais c'est incroyable.
Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de sous. Donc si vous voulez vous aussi nous aider à grandir, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, mais où est donc passé Val Kilmer ? Pour une fois, on ne va pas parler de fiction, on s'intéresse à un documentaire. Un docu sobrement intitulé Val, qui revient sur son parcours aussi chaotique que passionnant. Mais donc, où est passé Val Kilmer ? Pour comprendre sa disparition des écrans, il faut revenir en 2015. L'acteur a alors 55 ans et il apprend qu'il a un cancer de la gorge. Il y laissera sa voix et c'est donc son propre fils qui retrace en voix off une carrière qui prend son envol dans les années 80 avec Top Gun, avant d'exploser dans les années 90 avec The Doors, Batman Forever ou encore Heat. Pour mettre son histoire en image, les réalisateurs Ting Poo et Leo Scott ont eu l'embarras du choix. Depuis le plus jeune âge, Val Kilmer filme sa vie, pendant les castings, pendant les tournages, avec sa famille, sur les plateaux de télé, des heures et des heures d'archives personnelles dans lesquelles les deux réals ont pu piocher. Présenté au Festival de Cannes en juillet dernier, Val est disponible en VOD depuis le 20 janvier. Alors c'est rare dans Sale Temps qu'on parle de documentaire, hein, c'est arrivé une seule fois jusqu'ici. Dans la saison 1, on s'était intéressé à You Don't Know Me, docu qui revenait sur le film désormais culte Showgirls de Paul Verhoeven. Pour ce documentaire sur Val Kilmer, qu'est-ce que vous nous proposez comme météo ? Allez Pierrick.
C'est pas de la météo mais crépuscule.
Ok.
Ouais, moi j'allais dire crépuscule avec du brouillard, un peu flou quoi.
Un peu flou. Eric,
je vais être moins fin, moi, bien pluvieux avec un peu de boue.
Ok, Julien.
Quelque chose de très tourmenté avec des nuages noirs très très opaques.
Très opaques. Bon, c'est pas un super temps. Hein. Vous allez nous expliquer tout ça. Eric, toi qui es de retour d'après une absence si longue puisque tu étais parti en vadrouille à l'autre bout du monde.
Moi, je vais dire un truc que je pense vraiment déjà des acteurs hollywoodiens. Je pense que souvent, acteurs de cinéma, je pense que vous ne serez pas d'accord, mais ce n'est pas un métier très dur parfois, contrairement à comédien. Et les grands acteurs, en fait, sont vraiment ceux qui vont chercher les rôles et composer avec. Mais des acteurs comme Val Kilmer, moi, je n'ai jamais été emballé par ce qu'ils faisaient. Et ça me rappelait, pendant tout le documentaire, ça me rappelait ce que disait le stand-up comédien Jim Jeffries. À un moment, il disait... C'est dans sa série qui s'appelle Legit, je crois. Il disait, ben voilà, Et il y a une fille de 5 ans dont il faisait allusion à la leçon de piano qui peut avoir un Oscar pour un rôle. On ne pourra jamais donner ça à un plombier, etc. Ça veut quand même dire que c'est quand même pas très dur ce que font les acteurs hollywoodiens. Et c'est vrai souvent, en fait. C'est vrai que ces gens-là, en fait, jouent tous au même niveau souvent. Et que malheureusement, en France aussi, hein, c'est très vrai. Hein. Moi, je vois les couvertures de Psychology Magazine où Isabelle Carré dit des aberrations, disant oui, vivre, c'est renaître, des trucs comme ça. Enfin, ils ont beaucoup trop d'influence médiatique, parfois, les acteurs. Et quand je vois en fait ce qui se passe dans Val, bah, c'est un type qui raconte sa vie, mais qui n'est pas arrivé pour moi à en extraire une sève intéressante. Et du coup, même si, bon, voilà, j'ai aucun problème avec Val Kilmer, c'est très très plat en fait ce qu'il nous montre. Et je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais moi ça m'a vraiment, je sais pas, j'avais l'impression de, je sais pas, en plus c'était vraiment monté avec une musique un peu comme de la dream pop, ça faisait penser un peu des chansons de Lana Del Rey pendant 1h40. Et je sais pas, je trouvais ça très ennuyeux moi, vraiment, ça m'a pas ému du tout.
Ça t'a absolument pas touché.
Pas du tout, non. Ouais, vraiment.
Même
ouais.
de le voir aujourd'hui, parce que c'est aussi ce que montre le docu. Hein. On le voit dans les images d'archives, on le voit enfant, on le voit jeune comédien débutant, mais on le voit aussi aujourd'hui à 65 ans et qui est pas en très grande forme. Il a une trachéotomie, il a une voix du coup toute robotique.
Ouais, mais je pense que le fait qu'il soit malade, ça suffit pas pour rendre le film émouvant, quoi. Enfin, moi, je suis d'accord, je suis pas morte à l'intérieur, hein, c'est triste de le voir comme ça aujourd'hui et tout. Hein. Mais en fait, moi, j'avais vu, comme tout le monde, le buzz de Cannes, et du coup, je m'attendais à un truc, j'avais vu que tout le monde disait que c'était génial et tout, je m'attendais à quelque chose d'hyper touchant. Et comme Eric, je me suis beaucoup ennuyée, j'ai mis plusieurs pauses pour faire autre chose, parce que je trouvais ça très très long, ça dure un peu moins de 2 heures, je crois. Et en ressenti, c'est beaucoup plus, c'est vraiment très long. En fait, je trouve que c'est un gros gâchis parce qu'il y a vraiment... Enfin, personne n'a filmé sa vie comme ça, surtout à cette époque-là. En fait, il le dit lui-même dans le docu, il dit je suis la première personne que je connais à avoir une caméra aussitôt à cette époque-là. Et il a tout filmé avec ses frères quand il était petit. Donc, en fait, il y a une masse d'archives qui est incroyable et je trouve que ce qu'on nous montre, c'est pas intéressant. En tout cas, c'est pas montré de manière intéressante, quoi. Et en fait, c'est de l'illustration. En fait, c'est une espèce de chronologie. Il y a plein de pistes qui sont lancées. Des choses sur la mort de son frère, sur lui, son rapport à la mort. Il y a la mort de sa mère aussi récemment. Mais en fait, tout est illustré. Il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a rien de... Enfin, moi, j'ai vu ce truc-là pendant 2 heures. Je ne pourrais pas te dire qui est Val Kilmer, en fait. Il y a des trucs hyper intéressants sur ces tournages. Le tournage de Batman, le tournage de Top Gun, on le voit faire le con sur certains tournages, être horrible. On le voit sur le tournage de l'île du Docteur Moreau, avec des confrontations avec le réel, des trucs comme ça qui sont hyper intéressants. Mais en fait, le film lance plein de pistes et va jamais au bout de rien, en fait. C'est très bizarre et très frustrant. Alors, je sais pas si c'est parce que lui est trop impliqué dans le projet, parce qu'en fait, toutes les images viennent de lui ou en tout cas de sa famille. Même les images qui sont d'aujourd'hui, c'est lui qui les a tournées avec son fils. Au final, les deux réals, j'ai l'impression qu'ils ont surtout fait du montage. D'ailleurs, à la base, ils sont surtout monteurs, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils étaient avec Val Kilmer dans la salle de montage qui disait « on prend ça ». Et en fait, c'est vraiment une succession de choses qui illustrent sa vie. On est plus dans l'hommage et dans le mémoire. En fait, c'est un film, pour moi, qui n'est pas écrit. Il n'y a pas d'angle. En fait, j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait me montrer, ce film. Alors, il veut me montrer, pour le coup, le titre est bien choisi. Il veut me montrer Val. C'est littéralement lui. Même pour le coup, il se montre en plus dans des... C'est pas forcément en plus un portrait hyper positif de lui parce qu'il se montre aussi dans des positions assez vulnérables quand il est au bord du malaise, dans des conventions. C'est vrai qu'il n'est pas à son avantage toujours. Il y a ces scènes où il est dans des festivals ou dans des trucs où on voit que il est sur des gloires passées, il signe des autographes sur des trucs, il n'a pas l'air hyper ravi d'être là et tout. Donc c'est bien en plus qu'il se montre dans des trucs comme ça, mais j'ai pas réussi à être touchée par le film. Je rejoins un peu ce que tu disais, Eric, où parfois il donne des phrases, enfin on dirait des trucs extraits de posters de motivation avec des phrases hyper vides sur la vie, mais c'est rien de personnel, quoi. Et ouais, je reprends vraiment ton mot où tu disais c'est vraiment plat, et moi j'ai trouvé ça vraiment plat et attendu, quoi.
Eric, Julien, vous partagez
Oui, globalement, sur la déception du film. Après, moi j'y ai cru un petit peu au début parce que je trouve que c'est intéressant de voir le trauma d'enfance, enfin le trauma pas d'enfance, mais le trauma de sa jeunesse, qui est la perte de son frère très tôt, qui mine de rien, c'est un peu lui qui lui a mis le pied à l'étrier, tout ça, etc. Donc je trouve qu'il y avait un angle qui était intéressant. En fait, le gros problème, c'est ce que vous venez de dire, hein, tous les deux, c'est que il n'y a pas de point de vue, en fait, dans ce documentaire. C'est-à-dire que c'est effectivement une suite de montage, de séquences. Il y a deux choses que j'ai trouvées très triste. Bon, finalement, il y a la scène un peu pathos où il est malade, la Comic-Con. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre cette scène? Je sais pas. Enfin bon, à part le fait de nous informer qu'il est malade, ce qu'on savait déjà. Enfin voilà. Mais juste avant, il y a une scène qui est encore plus triste, je trouve, c'est que et qui est un peu l'image de tout le film. C'est que les gens qui sont au Comic-Con viennent lui faire dédicacer des posters. Et ils lui font des dédicacer parmi ses films les moins intéressants, en fait, c'est Batman et Top Gun. Et tu te dis, en fait, ce pauvre gars, il a fait quand même des putains de films. Et ce qui reste de sa carrière, c'est ça. Donc c'est un peu triste. Et puis, pareil, quand il va au festival là, dans le Texas, il passe Tombstone. Et il passe vachement de temps sur ce film, alors que c'est quand même pas... Enfin, c'est sympa, Tombstone, mais quand on voit la carrière de Val Kilmer, il y a quand même des choses plus intéressantes. Et globalement, je trouve que Val Kilmer lui-même a pas une vision très sympathique de sa carrière. On sent qu'il a pas aimé, en fait, cette carrière. C'est vraiment un truc qui ressort beaucoup dans le film, je trouve. Il a pas pris de plaisir. On sent que voilà, il a fait Batman, ça l'a fait chier, il l'a pas fait la suite. Enfin, alors, je sais plus s'il réécrit l'histoire ou pas, mais en tout cas, voilà, il dit qu'il a refusé de faire le suivant. Il passe juste avant Heat, je sais plus ce qu'il tourne, mais il passe sur Heat à la vitesse de la lumière, alors que ça aurait été intéressant de
là il dit sur Heat justement très rapidement mais que là il s'est éclaté, que c'était
oui,
génial, mais il rentre pas dans le détail,
il y a pas de hiérarchie dans tout ce qu'il montre, en fait.
Il parle pareil, du sein avant, ouais.
Ouais, enfin oui, le sein, ouais, c'est ça, le sein, il passe à Heat. Bon, le sein qui est pas un bon film, lui il est pas bon non plus, enfin voilà, c'est ça sa carrière. Et en même temps, il aurait pu même sur l'île de Dr. Moreau, je trouve que c'est pas très intéressant finalement ce qu'il montre.
C'est dommage,
on sait hein, que c'était la merde, ce tournage. En plus, enfin, Frankenheimer, c'est plutôt moi un réalisateur que j'aime bien.
Donc, ouais, ouais. Même chose.
C'est un peu triste de montrer ça. Et pareil, enfin, Top Secret, pour moi, c'est un monument de la comédie, et il le prend comme une sous-merde, quoi. Et c'est triste parce qu'en fait, on suit un acteur qui est un peu aigri, qui aurait certainement voulu être un acteur shakespearien, qui a pas réussi à être ce qu'il voulait être au théâtre. La fin du film, elle est trop longue. Tout son truc sur
Mark Twain,
c'est interminable. Et en même temps, c'est pareil, c'est d'une tristesse absolue. Il est dans des salles où ils sont 50. Enfin, c'est voilà. Enfin, globalement, je trouve que c'est pas un très bon film parce que ça manque de point de vue. Et je trouve que ça m'a pas illuminé l'acteur, quoi. Je l'ai pas trouvé plus touchant que ça, bien au contraire.
Alors, ce que tu dis sur le comédien qui voudrait être un acteur shakespearien, il le dit lui-même, en fait, que lui, son rêve, c'était de jouer Hamlet, et qu'il a commencé par le théâtre, évidemment, et en fait, c'est pour ça qu'il est revenu ces dernières années, et avec Mark Twain, et avec voilà, ce projet-là, parce que il montre, je trouve, cette volonté, justement, d'être pris au sérieux en tant qu'acteur.
Ben, en fait, il a eu des rôles, justement, il était très pris au sérieux quand Oliver Stone lui donne le rôle de Jim Morrison. Enfin, il peut pas être plus pris au sérieux que ça. Donc c'est ça qui est un peu triste. On a l'impression qu'il a pas pris de plaisir dans sa vie de comédien, enfin d'acteur, si tu préfères. Mais et c'est vraiment moi ce goût-là que je garde à la fin du film. Et c'est un peu triste.
Julien.
Moi je trouve tous très durs. Alors le truc c'est que je pense qu'il faut replacer aussi le rapport qu'on a peut-être à Val Kilmer. Moi j'ai quand même grandi en partie avec ce mec-là. Ça veut pas dire que j'étais un fan absolu du type, hein, mais Val Kilmer c'était quand même une personnalité qui était pas forcément facile à suivre, en fait, quand tu suivais sa carrière en tant que comédien. Et c'était un mec qui pouvait se vautrer dans des projets comme Le Sein et être, moi je trouve, très étonnant, par exemple dans Les Doors. Moi je trouve qu'il fait une composition assez dingue, quoi. Vraiment, il est assez habité. Et je suis pas d'accord, moi, avec ce que tu dis, Eric, sur la position des comédiens. Moi j'ai pas une grande. Des acteurs, enfin bon, je ferai pas trop la distinction personnellement, mais.
Cinéma,
en gros. Ben non, je suis pas d'accord avec ça, justement. Je pense que il y a j'ai un acteur, le nom m'échappe, mais enfin qui jouait dans Quai des Orfèvres, qui avait un tout petit rôle, quoi, qui avait fait un petit livre sur le métier de comédien, et qui justement lui disait que la différence entre l'acteur de théâtre et l'acteur de cinéma, c'est qu'au cinéma il y avait un truc où au bout d'un moment tu pouvais plus tricher, en fait, et que t'étais tellement, en fait, dans la proximité. Et tu devais tellement aller dans les petites choses qu'il fallait finalement que tu te vendes. Et c'est ça, en fait, le truc avec un acteur de cinéma, c'est que moi, je pense que l'acteur de cinéma, il passe un pacte faustien, en fait, avec la caméra. C'est-à-dire que tu vends ton âme quand tu es vraiment acteur, quoi. À plus d'un titre, c'est-à-dire que tu accèdes à l'immortalité, les images vont te survivre, on peut faire ce qu'on veut avec ton image ensuite, on l'a vu avec Peter Cushing, par exemple, avec Rogue One et tout. Donc, tu accèdes à l'immortalité, mais tu vends aussi une partie de ton âme. Et je pense que finalement, et surtout pour un acteur comme Val Kilmer, c'est que pour le pire ou pour le meilleur, je pense que ce mec-là, il a habité ses rôles, en fait. Et c'est ce que tu vois très vite hein, dans le documentaire, notamment avec l'exemple de Top Secret. C'est vrai que ce qu'il dit sur Top Secret, moi, j'adore, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Mais je peux comprendre, en fait, sa frustration où lui dit « je saignais des doigts tellement j'ai essayé de m'entraîner très vite, en fait, à vraiment jouer de la guitare ». Un vrai acteur de la méthode, on va dire, à l'américaine. Et finalement, les As, ils ont décidé que ce serait plus drôle. Et c'est plus drôle hein, qu'ils fassent une espèce de truc de
guitare sans corps.
Ouais. Ouais, c'est pas ouais, une espèce d'impro où il est complètement pas du tout synchro, en fait, avec la musique, quoi. Donc, il y a ça sur Val Kilmer. Puis, il y avait un autre truc, c'est que très vite, on a compris, quand tu suivais ça, quand tu lisais des entretiens et tout, que c'était un mec à problème énorme, qui fuyait des tournages, qui était ingérable. Tous les cinéastes qui ont travaillé avec lui, ou quasiment tous, disaient pique-pendre du mec, que c'était une ordure finie. Et il a été très vite catalogué dans l'histoire du cinéma comme le grand méchant. Et moi, c'est ça un peu. Enfin, c'est comme ça que j'ai pris du coup le documentaire comme sur deux plans en fait au début. C'était d'une part de voir les coulisses de ces films-là ou d'une carrière comme la sienne sans filtre. Et le film te le vend, c'est-à-dire qu'une des premières vraies images d'archives que tu vois Sean Penn et Kevin Bacon qui dans les loges sont en train de montrer leur cul. Alors là, quand tu vois un truc comme ça, tu dis bon bah vas-y, ce qui va te montrer quoi sur un tournage comme Batman Forever qui était complètement dingue. Je fais un truc très bizarre avec ma gorge là, c'était curieux. Mais bref, et donc ça va être
comédien.
Ça va ouais ou sur l'île Docteur Moreau, ça va être dingue. Et c'est vrai que ça. C'est pas toujours au rendez-vous, et moi je comprends là-dessus la déception. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose aussi qui est problématique, c'est que c'est vrai qu'il. C'est pas qu'il se donne le beau rôle, et ça, je vais y revenir, mais c'est vrai qu'il balaye trop facilement, je trouve, le côté mec mauvais, en fait. Il en parle un petit peu autour de Kiss Kiss Bang Bang, surtout, quoi, sur cette image publique qu'il avait, mais finalement il s'y confronte pas à ça. Moi j'aurais adoré qu'il s'y confronte. Je pense que c'était ça le vrai sujet en fait du film. C'est l'histoire du méchant à Hollywood. Qu'est-ce que c'est un acteur à problème qui fait chier tout le monde quoi, qui fuit, et pourquoi lui fuit en fait. Et t'as des petites pistes des fois, tu vois que le mec il se barre de temps en temps pour nourrir en fait son personnage parce qu'il a besoin de ça en fait. C'est là aussi où l'investissement d'un acteur de cinéma peut être total. Et je pense qu'encore une fois un mec comme Kilmer il fonctionnait comme ça. Et ce qui est ambivalent, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que d'un côté il y a une espèce de filtre comme ça, et d'un autre côté, moi j'ai rarement vu un mec autant se. Il y a un côté où il se déprécie vachement en fait. C'est-à-dire que se montrer comme ça, Val Kilmer aujourd'hui sa carrière, et c'est quoi ? Il vit comment quoi ? Il vit des conventions en fait.
Et il le dit. Hein.
Et il le dit. Et je me suis dit quand je suis sorti de ça. Je me suis dit, mais comment il peut vivre en fait encore des conventions après ça ? C'est-à-dire que c'est les mecs qui vont payer au Comic-Con pour les faire signer une affiche de Batman Forever, il est très probable qu'ils voient ce documentaire-là. Mais est-ce qu'ils vont y aller en fait après ? Quand tu vois la séquence au Comic-Con qui est... Moi je trouve... Alors à la fois tu dis c'est un peu un ouin-ouin, en même temps le mec il a quand même un cancer de la gorge, il a un mal à parler, c'est douloureux, c'est vraiment dur quoi. Pour un comédien, perdre sa voix, mais c'est presque ce qu'il y a de pire, quoi. Et du coup, moi, j'ai vraiment de l'empathie, en fait, pour lui. À ce moment-là, je me dis, putain, mais c'est terrible, en fait, ce qu'il vit. C'est vachement dur. Et c'est la même chose avec la séquence de Tombstone. Alors, Tombstone, pour nous, c'est pas grand-chose. Je pense qu'aux États-Unis, la place qu'a ce film-là, qui n'est pas un très bon film, le film de George Pancosmatos, elle est beaucoup plus grande. C'est un truc, je pense qu'il y a une
bah, je pense qu'au Texas, oui, ça doit être très, très important.
Mais même ailleurs, en fait, je pense que c'est un film qui a plutôt marqué là-bas. Mais même là, tu vois, cette séquence, en fait, où il déambule tout seul et tu sens le poids de la solitude là-dessus, moi, il y a quand même des séquences dans le film qui m'ont vraiment... Ils m'ont vraiment touché, comme le fait qu'il fasse appel à son fils pour narrer avec sa voix et avec ses propres mots tout ce récit-là, qu'il utilise là. Alors, c'est vrai que peut-être que ces messages, il y a un côté un peu, je sais pas moi, mec de Venice Beach, un peu un peu à flanc et tout, mais
californien,
mais en même temps il y a une façon de vouloir s'exprimer en fait dans ces espèces de photomontages qui retravaillent avec son image et tout. Val Kilmer, c'était ça aussi, c'était le beau gosse total, absolu en fait, plus que je
sais
pas,
un peu bad boy, quand même.
Mais certes, mais c'était vraiment ça quoi aussi dans les années 90 quoi. Et le voir qui se montre comme ça, dans... il fait pas gaffe à lui, tu vois, il a une espèce de... il se lâche et tout comme ça. Moi, j'avoue que ça m'a touché. Et alors, donc c'est vrai que c'est un film un peu bordélique, c'est un film qui se renie un peu, et ça, moi, je peux comprendre en fait qu'on ait du ressentiment en fait vis-à-vis du film là-dedans. Et en même temps, c'est quand même un film qui m'a pas mal touché. Et je trouve que même si c'est vrai, je suis aussi d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des problèmes de censure, qu'il y a des problèmes avec les agents. Tu peux pas montrer ce que tu veux et tout. Ça sent. Par exemple, sur Top Gun, tu sens en fait quand il y a Tom Cruise et tout derrière. Je me suis dit jusqu'où il va aller sur les images de Tom Cruise. Et moi j'ai eu l'impression en tout cas qu'il pouvait pas montrer tout ce qu'il aurait pu montrer, tout ce qu'il avait, tu vois, en stock. Ça me semble évident. Ça devait être dingue, un tournage comme Top Gun. T'en vois un tout petit peu, mais voilà. Mais malgré tout, il y a quand même des trucs que moi je vois très rarement. C'est-à-dire que l'île Docteur Moreau, j'ai une espèce de fascination déviante pour ce film improbable. Et j'avoue que ces séquences-là, je les ai vu nulle part ailleurs, y compris il y a eu un long documentaire qui a été fait avec Richard Stanley qui est copieusement interviewé sur ce tournage, et j'ai pas vu ces images là.
Enfin, il y a 20 secondes, hein. Faut aussi remettre ça en...
Il y a peut-être 20 secondes, mais la séquence où il va, par exemple, moi, la séquence où il tourne enfin avec son idole, et le seul rapport en fait qu'il a avec Marlon Brando, c'est qu'il va le balancer,
cet
homme énorme, assez informe, qui est avachi dans son hamac, et il le balance dans son hamac. Moi, je sais que c'est une image dont je me souviendrai. La séquence où le réalisateur, Frankenheimer, merci, l'engueule, enfin, il y a une engueulade improbable où il laisse tourner la caméra et tout.
Où il refuse de couper sa caméra
et tout. Je pense que c'est une séquence dont je me souviendrai. Donc, moi, un documentaire, c'est quand même un film qui me montre une facette d'Hollywood qu'on voit relativement peu. Et il y a un dernier truc aussi où je vous trouve assez dur, c'est dans les choses qui sont un peu plus personnelles. C'est-à-dire que moi, ces deux traumas, son frère certes, mais surtout son rapport à son père et toutes les problématiques qu'il y a avec son père, et du coup son attachement avec cette terre là, qu'il a achetée, qui est en lien plus ou moins avec ça et tout, ça c'est un truc qui m'a aussi un peu travaillé. Je trouve qu'il y a un truc qui court dans le film là-dedans, qui est bien, plutôt bien amené. Et il y a un autre truc aussi que j'attendais beaucoup, qui est le truc avec Joanne Vallée, en fait, qui était sa femme, là, qui est splendide, vraiment, enfin, qui était une femme très belle. Et puis tu t'en rends compte, quoi. C'était vraiment un beau couple, c'était belle personne, quoi, physiquement. Hein. Alors, je suis un peu frustré là-dessus. Et en même temps, il y a plein de non-dits. Par exemple, le fait qu'elle soit là, l'enterrement de sa mère et tout. Je sais pas, il y a des trucs où ma tête travaillait, en fait, là-dedans. Donc, j'ai essayé de comprendre, en fait, comment ce couple étonnant a pu fonctionner. C'était, pour un mec comme Val Kilmer, rester aussi longtemps avec cette femme-là, à cette époque-là, le fait qu'il court après elle et tout ce qu'il raconte avec Londres et tout, il y a aussi une écriture en creux, en fait, dans le documentaire, qui, moi, m'a fait pas mal travailler les méninges, quoi. Donc, je suis d'accord, c'est pas le doc ultime que, moi, la bande-annonce m'avait vendu, hein, notamment. J'attendais beaucoup, beaucoup ce documentaire. Il n'empêche que moi, j'en ressors avec des séquences et des morceaux de vie et des morceaux de où on te lève tout à coup le rideau sur Hollywood qui sont très rares, que j'ai très peu vus, moi, dans tous les documentaires que j'ai pu voir auparavant. Et qui vont que j'emporterai avec moi, c'est déjà pas mal. Hein.
Bon, c'est bien, on n'est pas d'accord, parce que moi je trouve que ça participe à mort à la mystique de l'acteur, justement, et à la mystique de l'acteur hyper californien là-dessus. Je suis pas d'accord non plus avec ce que tu dis sur le fait que la caméra met à nu le comédien. Pour moi, c'est de la mystique aussi, vraiment.
Alors,
c'est rare de voir un film mal écrit transcendé par un très bon acteur.
Alors il faut apporter un éclairage à ça, c'est qu'en fait c'est Val Kilmer lui-même qui a écrit ce docu. Donc, est-ce qu'il y a mis une forme d'autocensure aussi ? Est-ce qu'il a essayé de se mettre en valeur de...
Ça, c'est sûr. Hein.
Il a façonné.
Il n'est pas totalement honnête, en fait. C'est ça qui est chiant. C'est que d'un côté, il est très honnête et de l'autre, il ne l'est pas. Mais c'est ça, en fait. C'est là où j'ai un vrai problème.
Il y a un moment qui est intéressant dans le film, je trouve, c'est qu'à un moment, il explique dans Batman Forever qu'il ne peut pas jouer vraiment, qu'il n'arrive pas à jouer. Il voit... C'est assez marrant, d'ailleurs. Il voit Tommy Lee Jones et Jim Carrey jouer, il est un peu jaloux. Et à un moment, il y a un type qui arrive au Comic-Con qui lui fait signer une affiche et qui lui dit « Ouais, you are a great Batman ». Et dans cette scène-là, on voit à quel point parfois on projette, en fait, sur les acteurs, je vais pas dire un talent, mais des aptitudes qu'ils ont qu'à moitié, quoi, quand même. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de mystique de l'acteur hollywoodien et qu'il faut arrêter sur ces gens-là qui sont payés des millions et qui ont un ego énorme. Et je pense que c'est le problème de ce film-là aussi. C'est un mec qui a encore énormément d'ego et qui fait semblant de pas trop en avoir et ça passe pas. Et parfois, en fait, on le sent vraiment dans ces moments-là. À un moment, il explique qu'il y a une vieille légende indienne qui dit que quand on prend ta photo, on prend aussi ton âme. Et il explique ça en se coupant les cheveux. Et je trouve ça un peu ridicule, quoi, quand même. Et je trouve qu'on est vraiment dans un truc un peu embarrassant d'un mec qui, même si il lui est arrivé plein de choses, il a toute ma compassion, se regarde encore beaucoup, beaucoup, beaucoup le nombril, quoi. Moi, c'est ça que ça m'a...
Moi, je pense que t'embarques pas... Attends, excuse-moi, Pierre-Éric, mais juste pour terminer, je suis pas, absolument pas d'accord du tout. C'est incroyable que tu penses comme ça sur les comédiens. Je pense que t'embarques forcément le... T'as joué un peu déjà, Eric ?
Un tout petit peu.
Parce que moi, je pense que tu embarques vraiment le truc avec toi, quoi, tu vois.
Donne-moi des exemples et je dis pas que t'en as pas.
Par exemple, tu vois, je sais...
Genre un film très mal écrit, sauvé par un comédien, par exemple.
C'est pas la question, en fait, ça, je pense. C'est que...
C'est la mienne.
Tu vois, je sais... Et par exemple, j'espère que l'exemple sera pertinent ici, mais... J'ai interviewé récemment un copain là, qui s'appelle Pierre-Olivier Persin, qui est un maquilleur d'effets spéciaux et qui a bossé avec Toretton à sa demande parce que Toretton était en train d'interviewer Fourniret, cet homme abject, quoi. Et en fait, il avait eu besoin d'un maquillage prosthétique pour justement réussir à sortir du personnage, en fait, et à marquer une rupture très nette entre qui il est et le personnage. Et je pense que, par exemple, tu vois, moi, ce qu'il dit, Val Kilmer, un des moments où je le trouve honnête, c'est que ce qu'il dit dans son implication sur les Doors, et moi, je pense que c'est un film qui ça a contribué à le casser. Je pense que le mec était déjà pété avant et qu'il avait déjà des problèmes et tout. Mais je pense qu'il n'est jamais en fait, vraiment sorti de ce truc-là, soit parce qu'il voulait atteindre ce modèle-là, soit... Mais je pense que tu as un investissement là-dedans qui est total. Alors après, la question de est-ce qu'il mérite d'être payé et tout autant, ça j'en sais rien, je m'en fous en fait, c'est pas la question quoi. La question c'est que, oui, je pense qu'un vrai acteur, quand il s'investit pleinement en fait dans un rôle, j'ai l'impression
que généralement, ces acteurs-là, en fait, et par exemple, tu prends Christian Bale, etc., justement, ils refusent cet exercice-là que fait Val Kilmer de se dévoiler à mort, parce que plus tu te dévoiles et moins t'es crédible en tant qu'acteur, je trouve.
Ouais. Mais en même temps, tu dis se dévoiler, mais moi je trouve qu'il se dévoile pas tant que ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une suite d'anecdotes et de moments plutôt qu'un vrai truc. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur et de. Je sais pas, à aucun moment il explique comment tel rôle ou tel film a eu tel effet sur lui. Même les moments tragiques de la mort de son frère, c'est évoqué comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment eu du mal à me dire, ouais, ok, on m'a montré tout ça. J'imagine qu'il y a des tonnes d'autres choses qu'on aurait pu me montrer, puisqu'il a filmé des dizaines et des centaines de cassettes et de trucs. Hein. Mais il y avait énormément de choses. Et je me dis, mais en fait, pourquoi ils ont choisi ça et pas autre chose et pas un autre tournage? Il y a des films qui sont complètement occultés et des films importants. Et en fait, vas-y.
Je suis d'accord avec toi, Marie. Et par rapport à ce que tu dis, Julien, sur des moments de cinéphilie qui sont intéressants, etc. Oui, mais je les trouve vraiment. Tu les retiens, je pense, parce qu'ils sont justement anecdotiques dans le film. Donc, du coup, c'est les seuls trucs que tu retiens parce que c'est des trucs qu'on savait, voilà, et qu'on voit enfin. Et finalement, on n'apprend pas grand-chose quand même, mais on est content de les voir parce que, par pur plaisir cinéphilique. Et la deuxième chose, c'est que tout ce que tu dis par rapport à son père ou à son frère, finalement, le film, on parle très vite au début, et finalement, il se passe pas grand-chose avec ça. En fait, oui, il y a cette relation avec sa mère à la fin, etc. Mais ça vient vraiment comme ça, enfin voilà. Et surtout, moi, je m'attendais à, par exemple, un film qui, pour moi, quand il commence à parler de son héritage, justement, je crois qu'il a des ancêtres indiens, enfin, un truc comme ça, là. Il en parle avec son père. Je me dis, il va s'attarder sur ses Cœurs de tonnerre, je crois, où il tourne, il joue un flic, etc. Je me dis, il va s'attarder sur ce film-là. Et je crois qu'il y a un moment, il montre juste une pancarte, c'est tout, enfin... Tu dis, en fait, c'est con parce que ce que tu as montré avant, ça aurait pu servir le propos du film, qui n'est pas un film majeur, mais qui est un film quand même plus majeur dans sa carrière que Tombstone, par exemple. Enfin, je prends un exemple comme ça. Donc, je trouve que voilà, il y a plein de bribes comme ça qui ne sont pas inintéressantes, mais tu as l'impression de, tiens, on se réveille, ouais, ça c'est intéressant, regarde. Puis après, on se rendort parce que, Parce que c'est pas passionnant, quoi.
Il y a plein de choses qui pouvaient être...
C'est pas raccordé, thématiquement, ouais. c'est pas raccordé.
C'est ça, en fait, c'est ce que tu dis. Il y a plein de choses qui pouvaient être liées entre elles. Et en fait, moi, j'ai fait des ponts entre un truc qu'on montre au début, un truc à la fin, un truc au milieu. Et en fait, c'est moi qui fais le travail de lier des thématiques et des choses, alors qu'eux, ils l'ont pas fait. Et du coup, tu vois, Clément, tu disais, c'est lui qui a écrit le film. En fait, moi, je dirais, c'est lui qui a pas écrit le film, en fait, parce que, effectivement, il est crédité à l'écriture du film, mais le film est pas écrit, quoi.
Et par contre, sur le travail, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Eric, non plus. C'est, effectivement, sur
The Doors... C'est pas une opinion très
populaire.
Non,
mais sur The Doors, on voit que le mec, il a bossé comme un taré, quoi. Et qu'il s'est battu pour avoir le rôle, et il l'a eu. Donc ça prouve bien qu'il a bossé. Alors après, c'est peut-être c'est pas la
mine, etc. Non, mais je dis pas qu'il a jamais rien foutu, non plus.
Mais voilà, ce rôle-là, il le voulait, il l'a bossé, et il l'a eu. Et... j'ai l'impression que dans sa carrière, c'est pas arrivé souvent, en fait.
Je dis surtout qu'en fait, ces gens-là, on les met trop rapidement sur des piédestals. Et des piédestaux ?
Piédestal ?
Bon, voilà, la question est ouverte. Mais... et que du coup, en fait, bah, voilà, moi, je vois un mec qui est aussi pas mal victime de son ego. Il y a un moment qui est assez intéressant, parce que quand même, hein, il a... ce qu'il fait sur Mark Twain et tout, ça a l'air intéressant. Mais à un moment, il y a une phrase qui dit, et je peux pas m'empêcher de tiquer, où il dit « c'est dur d'écrire un bon film, c'est très dur d'écrire un très bon film, et moi, j'essaie d'écrire un classique. » Et là, je me dis « ouais, le travail, l'ego est pas détruit là. » Donc en fait, tout le problème de ce film-là, c'est que ce mec-là, en fait, il essaye encore. Tout ce qu'il montre, en fait, bah, c'est de l'ego, c'est pas... voilà.
C'est la tension qui m'intéresse, en fait, moi, là-dedans. C'était cette tension entre... et je trouve encore une fois qu'il se serait confronté pour de vrai, sans l'élucider comme ça, à toutes les problématiques qu'il a trimballées au fil de sa carrière, où on aurait abouti à quelque chose, quoi. Et non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous non plus sur ces traumas initiaux. C'est des choses qui courent, en fait, dans le film, qui sont toujours là, quoi, comme son rapport avec sa propre famille, quoi, en fait. Donc,
je trouvais ça un peu mou.
Après,
vraiment très dur.
Bon, on va pas réécrire son histoire, l'histoire de sa vie, mais la plus belle fin dans ce film-là, ça aurait été qu'il monte sur les planches à la fin pour jouer peut-être dans un Hamlet ou un truc comme ça. Et ben, alors, je sais pas si c'est qu'il a pas assez bossé.
Dans une structure hollywoodienne.
Ça aurait été. Il y avait un vrai payoff, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais là, bon, bah.
Il
n'y
a pas de payoff, c'est ça qui est dramatique aussi. C'est ça qui est tragique, quoi. Tu vois, c'est pareil avec le truc de Mark Twain. Oui, bien sûr, il dit ça, il raconte ça et tout. Alors, d'un autre côté, c'est aussi toute la problématique du film. C'est que oui, je pense qu'il a un vrai ego, bien sûr, évidemment, ego énorme. C'est Val Kilmer, quoi.
Comme tous les acteurs.
Et, mais surtout lui, quoi. Enfin, voilà, on le sait, quoi. Le mec, son truc de Mark Twain, c'est quand même l'histoire d'un échec monumental. Comme le disait Pierre-Yves, tu vois, le mec, il joue dans une petite salle et tout. Enfin, tu te dis, mais c'est hallucinant. Il vend tout pour ça. c'est pitoyable, quoi, tu vois, et il montre ça quand même, mine de rien. Donc c'est l'équation que j'ai du mal à résoudre et en même temps qui m'interroge, c'est-à-dire que ce truc, en fait, où effectivement le mec, il a une espèce de filtre où il dit pas tout et en même temps il se montre comme ça, enfin vraiment, encore une fois, dans un échec assez impressionnant, quoi.
Et finalement il porte un regard vraiment pas positif, c'est ce qu'on disait au début, hein, sur une bonne partie de sa carrière, il y a de l'amertume. Quand il parle, tu disais qu'il faut arrêter de mettre sur un piédestal tous ces acteurs hollywoodiens. Mais tu vois, dans Batman, il le dit lui-même que, en fait, il n'est pas capable de jouer. Donc, à un moment, il a simplement arrêté. Et le fait d'admettre ça, il y a quand même une honnêteté derrière,
c'est vrai,
aussi.
Il y a ça, par exemple, il y a cette longue séquence où il envoie ses tests, en fait, à Kubrick pour Full Metal Jacket, où c'est très bien qu'il n'y arrivera jamais, quoi, parce que tu as vu le film et tu sais que Val Kilmer n'est pas dedans, quoi. Mine de rien, il te le montre, ça, quoi, tu vois, aussi. Encore une fois, c'est Val Kilmer. Je veux dire, évidemment, c'est un mec qui a quasiment disparu, on va dire, du cinéma, vraiment. Enfin, en tout cas, en grosse tête d'affiche depuis presque 20 ans, non, pas loin. Et c'était énorme. Enfin, je veux dire, encore une fois, dans les années 90, Val Kilmer, c'était monumental, quoi. Je veux dire, il y a des budgets astronomiques qui se montaient sur son nom, quoi. Donc, encore une fois, je j'ai pas beaucoup d'équivalents là-dessus. Moi, j'ai le seul truc, et alors ça, c'est pas en faveur du film.
Excuse-moi, pendant tout le film, j'ai pensé à un autre documentaire du même genre. C'est celui de...
Est-ce qu'on a pensé au même
Man of the Moon, là,
et ben voilà, exactement, voilà.
De Jim Carrey.
Exactement, j'ai pensé à ça
qui
aussi.
Qui, pour le coup, est moi je trouve très réussi.
Alors, c'est bien mieux, c'est bien, bien supérieur. Mais effectivement, j'ai pensé exactement à ça. Mais qui également te montre aussi ce que c'est l'investissement d'un comédien dans un rôle et à quel point ça peut le déglinguer en fait, le mec, quoi. Et c'est vrai que c'est un documentaire supérieur à Val sur ce point-là, clairement, c'est sûr.
J'ai une petite chose aussi qui m'a vraiment surprise, c'est que c'est produit par A24, là, qui est quand même un studio qui a la grosse cote. Enfin un studio, en tout cas une maison de production qui a la grosse cote à Hollywood, et j'étais assez déçu du coup par la facture du documentaire que je trouve pas tenu, pas très bien écrit, pas très bien monté, et ça m'a vraiment surpris parce que je me dis c'est un peu bizarre qu'ils aient produit ce film là ou alors peut-être qu'ils l'ont récupéré déjà produit ou déjà fait, mais j'étais un peu déçu parce qu'en général qu'on aime ou pas ce qui sort, en général il y a une facture qui est vachement tenue. Là j'ai trouvé que c'était assez ça fait presque, enfin un peu premier montage, quoi. C'est le sentiment que j'ai eu.
Moi, je suis très curieuse de savoir ce que ça aurait donné si ça n'avait pas été écrit par lui, mais avec les mêmes images d'archives à disposition de
quelqu'un d'autre, hein.
Qui aurait un angle. J'y pense parce qu'en fait, alors je crois que j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais ça m'a beaucoup fait penser à cette mini-série de docu sur la carrière d'Orelsan San. Qui lui aussi, enfin c'est pas lui, c'est son petit frère qui a cumulé des heures et des heures d'images d'archives qui le filment depuis qu'il est ado, en étant persuadé que son grand frère va devenir une superstar. Et c'est effectivement ce qui se passe, et il y a une vraie écriture, il y a une vraie construction, les images d'archives sont portées, et c'est pas complaisant. Enfin, j'ai trouvé vraiment cette série très très réussie.
Sur Hellsan, c'est pas Val Kilmer. Val Kilmer, ça a toujours été le chaos, ça a toujours été le bordel.
Mais attends, Orelsan,
ça lui ressemble aussi quelque part
aussi,
ce film. Moi, je trouve en fait.
Là, c'était simplement le fait que ça soit pas écrit par lui directement, tu vois, qui crée une différence.
Moi, je m'attendais à avoir des belles surprises sur cet acteur, et finalement, ça reste un acteur que je remets à sa place de
même chose.
De je dirais presque de sidekick, quoi. Enfin voilà, de mec qui joue le méchant de base,
ouais,
qui a fait un Batman, mais qui est pas resté,
quoi,
dans les annales. Enfin voilà. C'est dommage parce que je m'attendais à sortir à sortir quelque chose de plus grand de cet acteur-là. Ouais.
C'est la preuve qu'il n'a pas cherché à se racheter, en fait, quelque part.
Mais moi, à la fin de ce docu, je me disais, mais on les entend trop parler, ces gens-là, vraiment. C'est des outils marketing.
Il a une dent contre les comédiens.
Non, pas du tout. Je les adore, mais quand on les entend pas trop parler, quand justement, j'arrive à me fondre dans leur personnage. Mais quand je les vois autant, quand je les vois interviewer partout, quand je les vois utiliser comme outil marketing tout le temps, ouais, ça me fatigue. Je trouve qu'on les entend trop parler, ouais, clairement. Vraiment, c'est ce que me le. Je peux pas être plus sincère là. C'est vraiment à la fin du documentaire, je me suis dit. Je m'en fous, quoi. En fait, je le préfère, ouais, dans les films. Mais tout ça pour ça, ouais. Son avis sur sa propre vie.
On
n'a
pas toujours des choses intéressantes à dire, quand on fait des films intéressants, quoi.
C'est ça.
On va arrêter de tirer sur l'ambulance. Je pense que si vous voulez vous faire votre propre avis, Val est disponible sur les plateformes de VOD depuis le 20 janvier. On arrive à la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole, vous avez vu le film de la semaine, vous avez des commentaires à nous faire, que vous ayez adoré ou détesté, ne soyez pas timide, donnez-nous votre avis. Pour ça, c'est très simple, retrouvez Capture Mag sur Messenger et enregistrez un message vocal, on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Nightmare Alley, le dernier Guillermo del Toro, gros succès du côté de l'équipe qui avait salvé en cœur un film très réussi. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? On écoute ça tout de suite.
Salut Capture Mag, j'adore toutes vos émissions. Un grand Guillermo del Toro que ce Nightmare Alley. Un grand film, toutes les obsessions du mec, moi ce que j'ai ressenti, une grande inertie du réel, quoi. Toujours le thème du fric, quoi, qui est dans ces films comme les lingots d'or qui arrivent dans Les Chines du Diable ou. Puis des trajectoires vraiment très étranges des personnages qui sont toujours rattrapés par le réel. J'ai adoré ce film.
Bonsoir Marc, Capture Mag, merci pour.
Molly qui décide de le quitter et qui veut pas jouer le rôle qu'il lui impose, je pensais pas qu'il la récupérerait. Je pensais vraiment qu'elle continuerait à l'envoyer chier en disant non, je veux plus te voir, etc. Ça m'a déçu un peu qu'elle cède.
La brunette ?
Oui, la brunette. Je pensais pas que c'est vrai.
Pour ma part, j'ai beaucoup beaucoup aimé Nightmare Alley. Je pense que c'est un très grand film de cinéma, que ce soit au niveau de la lumière, des acteurs, du décor, vraiment tout ça est parfait. Mais surtout le beau plan chez Del Toro, il a un sens. C'est un film d'ambiance, à la fois fantastique et film noir, mais c'est aussi un film sur la profonde noirceur de l'âme humaine. Et c'est en ça que le film est vraiment très intéressant. C'est un film à voir.
Moi, je suis sorti du cinéma, je suis allé m'acheter un paquet de gauloises brunes sans filtre, et putain, mais ça m'a fait un bien fou. Voilà. Vive le cinéma!
Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Eric, merci.
Merci à toi.
Merci
Clémence.
Et merci Alain.
Merci Alain.
Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Ça y est, on a passé le cap des 20 000 abonnés sur YouTube. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on plonge sur d'autres émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut !